Alors, ça fait un peu plus d'une année, j'avais commencé une série de prédications sur la Sainte Cène. Et durant ces prédications, durant la première, on avait vu, entre autres, que la Sainte Cène, ce n'est pas un symbole, mais que c'est un repas spirituel, que c'est un repas sacrifice. Et on avait vu, en fait, quels sont les principes spirituels qui donnent toute la puissance à ce sacrifice. Et puis, j'ai aussi consacré toute une partie à parler du pain, donc le corps de Jésus. Et j'ai fait la relation avec la manne. Et on a vu aussi ces textes en relation avec Ésaïe 53, où il nous est dit qu'est-ce que Jésus a pris dans son corps. Il y a quatre éléments, vous vous souvenez? Nos malédictions, nos péchés, la maladie, la pauvreté. Dans toutes leurs formes, sous toutes leurs formes, sous toutes leurs subtilités aussi. Et ensuite, je vous ai parlé de différentes manières sur le sang de Jésus. On avait parlé de la propitiation, du sang de la propitiation, ce sang qui était déposé dans le tabernacle sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, ce sang qui couvre la loi, parce qu'on n'est plus sous la loi, ce sang qui rend le Père, qui nous rend le Père favorable et qui nous rend favorable, propice au Père. On a parlé aussi du sang de l'Alliance. On a parlé du sang qui crie encore quand on parlait du sacrifice d'Abel. Et ensuite, j'ai été tellement interpellée par l'attitude d'Abel, par sa position de foi, par ses compréhensions spirituelles, que je vous ai parlé de l'offrande et du sacrifice de Caïn et Abel et cette différence. Donc en fait, dans toutes ces prédications, en arrière-fond, il y avait toujours la notion de sacrifice. Et en fait, dès le début de l'Ancien Testament, il est question de sacrifice. Dans tout l'Ancien Testament, il est question de sacrifice. Le premier sacrifice, c'est Dieu qui l'a fait quand il a tué des animaux pour pouvoir revêtir Adam et Ève. Ensuite, Abel a sacrifié. Les patriarches ont sacrifié. Les prêtres ou sacrificateurs ont sacrifié dans le tabernacle et il y a eu ensuite des sacrifices dans le temple. Donc tout au long de l'Ancien Testament, il y a toujours des sacrifices. Des sacrifices d'animaux, que ce soit bien clair. Et dans le Nouveau Testament, Jésus est apparu. Jésus, il n'a pas sacrifié. Jésus, il a accompli tous ses sacrifices en sa chair, en sa personne, dans son corps. Il est devenu le sacrifice. C'est lui qui est devenu le sacrifice suprême pour nous sauver de la mort, du péché, de la malédiction, de la pauvreté, de la maladie sous toutes leurs formes. Donc, on aurait pu penser que ça s'arrête là. Jésus a tout accompli. C'est fini. Mais non, il y a une suite. C'est pas fini. Il y a une suite et elle nous concerne. Et pour ça, pour comprendre, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à la page 1136. Romains 12, verset 1. Vous le savez par cœur. OK. OK, alors Claudia, tu peux l'afficher. Je vous exhorte donc frères et sœurs, on est bien d'accord. Surtout pour ce verset-là, frères et sœurs, on va se mettre tous dans le même paquet. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà maintenant que c'est à nous de nous offrir en sacrifice. C'est pas fini, cette histoire de sacrifice. Avec Caïn et Abel, on a vu que le sacrifice, il va plus loin que l'offrande. Vous vous souvenez? Non? Il y a des gens qui ne se souviennent pas? OK. Romana, viens voir, s'il te plaît. je fais une offrande à Romana. Il y en a encore, hein, j'ai un porte-monnaie, il y a une poche ici. Et puis, il y a encore des compartiments là. J'ai aussi mes cartes de crédit, tout ça. Ça, c'est une offrande. Tu peux aller t'asseoir. Tu peux aller t'asseoir, c'est une offrande. Tu peux le garder. Voilà. Ça, c'est une offrande. J'ai donné de mon superflu. Mais j'ai donné. J'ai offert quelque chose à Romana. Elle peut à peine aller au McDo avec, mais elle peut en faire quelque chose. Le sacrifice, c'est un petit peu plus... Le sacrifice, c'est un peu plus poussé. Parce que quand on se sacrifie, on renonce à quelque chose. Ritz, tu peux juste venir par là? Tu te mets juste debout? Je prends exprès Ritz parce que c'est mon mari. Comme ça, il n'y a rien d'équivoque. Parce que c'est un exemple. Mais voilà, l'offrande, c'est différent. Dans mon porte-monnaie, j'ai de l'argent en cash. Mais j'ai aussi mes cartes de crédit. J'ai mes cartes d'assurance maladie. J'ai le livret ETI pour s'il m'arrive quelque chose quand je suis en voyage. J'ai même la carte de la Confédération, si jamais de l'ambassade et tout ça, si une fois je suis à l'étranger qu'il m'arrive un truc, je sais qui appeler. Tiens, j'ai mon permis de conduire. Et ma carte d'identité. Si je veux sacrifier ma vie, Tu peux aller t'asseoir. Voilà. Si je vais aller au McDo, eh ben, je suis embêtée. Ça, c'est le sacrifice. Je ne sais pas ce qui va advenir de ma vie. Je ne sais pas. Même mon identité, je l'ai donnée. J'ai tout donné, là. S'il ferme ma clé à la maison, ben, je suis embêtée. Je sais même pas, j'ai même pas mon téléphone, je peux rien faire. Je peux aller taper à une porte, il faut encore tomber sur la bonne. Comprenez? Jésus, il n'a pas fait une offrande. Oui, il a fait l'offrande de sa vie, mais il a fait un sacrifice. C'est indissociable dans ce que Jésus a fait. Il n'a pas donné un petit peu de sa vie. Il ne pouvait pas, puisque c'est sa vie. Il ne pouvait pas la donner à moitié. Il l'a donnée entièrement. Il a renoncé à tout. Il a renoncé à avoir une famille. Il a renoncé à avoir des enfants. Il a renoncé à avoir une vie sociale normale, entre guillemets. Il était seul. Enfin, il a tout donné. Ce qu'il a fait, c'est juste énorme. C'était, en fait, pour que son œuvre s'accomplisse, c'était soit il se sacrifiait et son œuvre était accomplie, soit il ne sacrifiait pas. C'était ça. Il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas de zone du milieu. Pourtant, nous, on nous demande d'être des sacrifices, mais on ne peut pas faire comme Jésus. Et puis, ce qu'il a fait, lui, il l'a déjà fait. On ne peut pas nous aller sur la croix. On ne peut pas faire ça. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'on est un peuple de sacrificateurs. Ça, on le sait, c'est écrit dans le Nouveau Testament. On est des sacrificateurs à l'image d'Abel, à l'image des patriarches, à l'image des prêtres dans le temple, etc. Mais être des sacrifices, c'est quoi? La deuxième dia, tu ne vois pas bien, il y a des subtilités, il y a des mots soulignés, tu ne les vois pas bien. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc celui pour qui je me sacrifie, mon exemple suprême, c'est le Seigneur. C'est à Dieu que je dois me sacrifier. Mais alors la question, il est demandé que je sois un sacrifice vivant. Comment est-ce que je peux aller me coucher sur l'autel spirituellement et continuer ma vie de tous les jours? Comment c'est d'être un sacrifice? Jésus, il a dû mourir, mais moi, je dois être vivante. Comment concilier ces choses-là? Eh bien, on le voit, c'est toujours noté dans le même verset, c'est que on est exhorté par les compassions de Dieu à offrir nos corps. comme un sacrifice vivant. Ce qu'on peut déjà observer, en fait, c'est que Paul, il n'a pas écrit qu'on devait nous sacrifier nos pensées, notre être, notre âme, nos émotions, nos motivations. Il a dit sacrifier vos corps. Et le mot dans le texte original, ce n'est pas équivoque, c'est vraiment le corps. C'est ça, ça fait mal quand on pince. C'est ça qu'on doit sacrifier. En même temps, c'est absolument pas contradictoire quand il dit corps de penser à l'être entier. Parce que ce qu'on sait, c'est que la vie est dans le sang. Il y a un verset dans Lévitique qui nous dit que la vie est dans le sang, mais en fait ce mot vie, c'est le mot nefesh en hébreu, qui veut dire l'essence même de l'être vivant, ce qui fait qu'on peut être vivant. Donc en fait, tout le fait qu'on est vivant se trouve dans notre sang. Et notre sang, il se trouve dans notre corps. Donc de toute façon, ce n'est pas contradictoire de penser à notre personne entière. Et la parole confirme ça dans 1 Thessaloniciens 5:23, qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas contradictoire. On doit nous sacrifier tout entier. L'être humain, il est fait à l'image de Dieu. Donc l'être humain, il est un, mais il est aussi unité. Donc nous sommes une seule personne, nous avons un seul corps, mais nous sommes en trois dimensions, corps, âme et esprit. Ça, c'est indissociable. Alors pourquoi Paul nous dit « sacrifiez vos corps ». Pourquoi il ne nous dit pas « votre être entier » Eh bien, moi, je pense que c'est une bonne protection. Parce que s'il avait marqué « sacrifiez-vous par le temps que vous prenez dans la prière », le temps que vous passez à l'église avec vos frères et sœurs, sacrifier du temps pour être plongé dans ma parole. Tout ça, c'est juste. Mais si c'est de ça qu'il parlait initialement, c'est subtil, hein? Suivez-moi bien. Ça aurait été une porte d'entrée pour un esprit religieux et légaliste. Parce qu'on aurait oublié notre corps dans tout ça. Et c'est tellement facile d'aller à la réunion de prière, d'aller au groupe de maison, de venir le dimanche matin au culte, de lever mes mains pour louer le Seigneur, de lire la parole tous les matins, et ensuite de vaquer à mes occupations de façon toute différente. Comment est-ce que je gère mon corps? Dans l'Ancien Testament, les corps des animaux qui étaient offerts en sacrifice, ils étaient égorgés, coupés, brûlés. Donc, il fallait les renouveler à chaque fois. Une fois qu'il y en a un qui était brûlé, il n'y avait plus rien, il fallait recommencer. Et dans le verset, là, il nous est dit d'être un sacrifice vivant. Ça veut dire un sacrifice perpétuel. C'est du 24 heures sur 24. Ce n'est pas le dimanche matin ou je ne sais quand. C'est du 24 sur 24 que notre corps doit être sacrifié pour le Seigneur. On doit être sacrifié pour le Seigneur dans tout ce qu'on fait. Avec nos amis chrétiens, mais aussi avec nos amis non chrétiens. On doit sacrifier notre corps quand on est au bistrot. On doit sacrifier notre corps dans sa gestion, dans ce qu'il fait, dans les messages qu'il fait passer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je poste? On doit gérer notre corps, sacrifier nos corps au volant de notre voiture, à notre travail. Dans tout ce que notre corps montre, exprime, fait, dans sa manière de s'habiller, dans le message qu'on veut faire passer, dans les choses que notre corps consomme par la bouche, par les yeux, par les oreilles, que tout soit un sacrifice vivant, saint, agréable pour Dieu. Paul, il nous secoue un petit peu, il nous remonte les bretelles et il nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Et ça, c'est aussi du 24 sur 24 que notre corps, notre enveloppe, c'est le réceptacle du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. C'est celui qui a créé toute chose, tout ce qu'on peut voir, même ce qu'on ne voit pas, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui fait que tout tourne à l'endroit. C'est lui qui fait qu'il y a des saisons. C'est lui qui fait qu'on peut manger, qu'on peut s'aimer, qu'on peut se connaître, qu'on peut s'épanouir, grandir. Et il est en nous. Est-ce que ce n'est pas normal de sacrifier nos corps 24 sur 24 ? Il y a une façon de faire pour commencer à sacrifier nos corps. C'est des décisions à prendre. Parce que quand on voit le corps en général, dans sa globalité, ce n'est pas forcément évident de comprendre ce que ça veut dire. Mais on peut commencer par des petites choses, entre guillemets. Je peux décider, et donc faire ce qu'il faut pour, de sacrifier ma bouche et tout ce qui en sort au Seigneur. Par exemple. Je peux sacrifier mes yeux, mes oreilles, etc. Pour vous donner un exemple, on va déjà juste lire l'exhortation d'Éphésiens 5, les versets 1 et 2. Je ne sais plus si je l'ai mis ou pas là-dessus. Ok, alors je vous le lis. Éphésiens 5, 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité ou l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Ça, c'est l'exhortation. Donc, concrètement, dans notre vie à nous, de tous les jours, si je prends une décision, comment est-ce que je peux faire ? Alors, par exemple, pour les filles, pour les femmes, pour commencer, voilà ce que ça peut être. Seigneur, je prends la décision de te sacrifier tout ce que j'entends, parce que les filles, on est très sensibles à ce qui passe par nos oreilles. Je prends la décision de te sacrifier tout ce que j'entends. Je place ton sang sur mes oreilles et je n'écouterai que ce qui vient de toi, ce qui vaut la peine d'être entendu. Je ne chercherai pas de paroles flatteuses ou de l'approbation des hommes. Je ne m'insurgerai pas de ce que j'entendrai quand ce sera des propos blessants ou inadaptés, mais je te les soumettrai simplement pour que toi tu t'en occupes. Et moi, je choisis de me consacrer à chercher ton cœur en toutes choses pour pouvoir aimer en toutes circonstances. Ça, c'est une prière qu'on peut faire. Par rapport à l'habillement, c'est surtout pour les filles aussi. Seigneur, je prends la décision aujourd'hui de chercher ta volonté dans ma manière de me vêtir, de m'habiller. Je renonce à toute forme de séduction dans ma façon de me vêtir. Saint-Esprit, je te demande d'ouvrir mes yeux spirituels pour que tu m'apprennes ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Que tu m'apprennes à trouver mon identité pour que dans ma façon de m'habiller, je sois authentique, que ça reflète la personnalité que tu as mise en moi, que ça te glorifie et que ça n'agresse pas les gens qui me regardent. Pour les hommes, oui, il en faut quand même un petit peu. J'ai un exemple, je pourrais aussi en prendre plusieurs, mais il y en a un parce que vous vivez des tentations qui sont vraiment extrêmement fortes et ça passe par les yeux. Vous pouvez même répéter avec moi. Je vous le lis une fois, et ceux qui le vivent déjà et ceux qui veulent prendre la décision, moi je vous invite après de le répéter avec moi. Je vous le lis pour voir si vous êtes d'accord d'abord. Seigneur, je prends la décision de te sacrifier mes yeux. Je choisis de ne plus ou de ne pas regarder une autre femme que la mienne ou celle que tu as préparée pour moi. Je choisis de ne pas regarder d'images équivoques, celle que toi-même tu ne regarderais pas. Mes yeux ne me serviront plus à convoiter, je détournerai mon regard chaque fois que je serai tenté, que ce sera nécessaire ou qu'il y aura un danger. Il y en a qui aimeraient qu'on recommence? Ok, alors vous y allez d'une voix pleine de testostérone, parce que c'est pas de la faiblesse, au contraire, de prendre ces décisions, c'est de la puissance, c'est de l'autorité, c'est de l'assurance. Un homme qui sait faire ça, il est solide et on peut lui donner sa confiance. Moi, je ne peux pas donner ma confiance à un homme qui ne peut pas mettre un voile sur ses yeux. C'est aussi simple que ça. Donc, le monde a mis les choses à l'envers. Mais il faut être courageux pour vivre dans cette dynamique-là. Alors, ceux qui sont d'accord qu'ils le fassent déjà ou qui décident depuis aujourd'hui, c'est comme ça. Seigneur, je prends la décision de te sacrifier mes yeux. Je choisis de ne pas regarder une femme autre que la mienne. Je choisis de ne pas regarder d'images équivoques, ni celles que toi-même tu ne regarderais pas. Mes yeux ne me servent plus ou pas à convoiter. Je détournerai mon regard à chaque fois qu'il y aura une tentation. Amen. On est tous témoins les uns des autres. Ah, il y en a une qui réclame pour les filles. C'est laquelle que tu veux. Alors, on y va pour les filles. Seigneur, je prends la décision de te sacrifier tout ce que j'entends. Je place ton sang sur mes oreilles. Et je n'écouterai que ce qui vient de toi, ce qui vaut la peine d'être entendu. Je ne chercherai pas de paroles flatteuses ni l'approbation. Je ne m'insurgerai pas de ce que j'entendrai quand ce sera des propos blessants ou inadaptés. Mais je te les soumettrai simplement pour que tu t'en occupes. Et je me concentrerai à chercher ton cœur en toute chose, pour pouvoir aimer en toutes circonstances. Seigneur, je prends la décision aujourd'hui de chercher ta volonté dans ma manière de m'habiller. Je renonce à toute forme de séduction dans ma façon de me vêtir. Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels et apprends-moi à m'habiller avec goût. Selon mon identité, ma personnalité, que je sois authentique. Que je sois épanouie en adoptant mon propre style de vie tout en t'honorant. Amen. Ça, c'est une démarche que je vous encourage à faire pour tout ce qui concerne votre corps, ou vos comportements, votre façon de faire. On sait tous où est-ce qu'on a des fragilités, des faiblesses. Et c'est ça, c'est ces choses-là qu'il faut sacrifier. Donc c'est comme ça que ça commence. C'est pas comme ça que ça se termine. Ça, c'est le début. C'est tout notre être qui doit être sacrifié, pas un aspect. Mais il y a aussi, il y a les choses auxquelles on doit renoncer, bien sûr. Mais chaque fois que je lève mes mains dans la louange, chaque fois que j'utilise mes mains pour les poser sur une personne, pour prier pour cette personne, chaque fois que je fais des petits pots de confiture que je vais distribuer avec amour à tous les membres de l'Église, Chaque fois que je me lève dans le bus pour laisser un autre que moi s'asseoir, chaque fois que je donne mon bras pour aider quelqu'un à traverser la rue, chaque fois que je me baisse pour ramasser quelque chose que quelqu'un d'autre a fait tomber, chaque fois que je m'occupe de mon foyer pour qu'il soit agréable à vivre, chaque fois que je décide de m'alimenter sainement pour bien prendre soin de mon corps, chaque fois que je m'occupe à veiller sur mon hygiène, sur tout ce que j'utilise comme produit pour voir si c'est bon ou c'est pas bon, ça aussi c'est des actes d'adoration. Ça aussi, c'est du sacrifice de me dire, je donne du soin dans ce que je fais. Dans tout ce que mes mains touchent, je peux le faire pour que ce soit un sacrifice pour Dieu. Il y a des choses, je n'ai pas besoin de les faire, ce n'est pas vital. Mais quand je décide de le faire pour Dieu, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice de bonne odeur. Donc, il y a les choses auxquelles on renonce, mais aussi il y a les choses qu'on va faire qui vont directement honorer Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a un problème, une faiblesse, c'est juste parce qu'on a notre cœur qui a envie de donner. Quand j'exprime de l'amour aux autres, je suis en train d'adorer Dieu. Donc Paul ne nous dit pas d'une manière doctrinale, tu dois faire ça, tu dois te sacrifier, non. Paul, il nous exhorte parce qu'il sait que c'est pour notre bien. Dieu, il peut se passer de notre sacrifice, mais il a choisi de nous utiliser. Mais c'est pour notre bien. Chaque fois qu'on adore Dieu, on est béni en retour. Et d'ailleurs, il y a encore des explications toujours dans ce verset qui dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est-à-dire le culte, c'est tout ce qui concerne le service pour Dieu. C'est notre adoration pour Dieu. Donc là, ça explique vraiment que le fait de se sacrifier, de faire tous ces efforts, c'est véritablement un acte d'adoration. Le sacrifice, c'est un acte d'adoration. Le sacrifice, il n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, un sacrifice est toujours une adoration. Parce que le sacrifice, il est toujours fait en référence à quelque chose, ou à quelqu'un, ou à une compréhension, ou à une idéologie. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui se sacrifient. Mais ce n'est pas neutre. S'ils se sacrifient, c'est parce qu'ils pensent que c'est bien pour une raison ou pour obtenir quelque chose. Il y a toujours une raison là derrière. Et pour nous, c'est une adoration à Dieu parce que tout ce qu'on fait quand on décide de se sacrifier, c'est en fonction d'une personne. C'est à cause de mon amour pour Jésus, de ma crainte respectueuse de Dieu, de la foi que j'ai en lui, de l'espérance que j'ai en lui, des compréhensions que j'ai de sa parole. C'est à cause de l'amour du Père. C'est à cause du secours du Saint-Esprit. C'est à cause de toutes ces choses-là que je me sacrifie. Alors c'est une adoration. C'est vraiment important de le comprendre. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et le fait d'être un sacrifice, c'est le fait d'exercer notre sacerdoce, notre service. C'est maintenant, c'est ici sur terre, mais c'est aussi prophétique. On est des sacrificateurs aussi pour l'éternité, pas seulement sur terre. Ici, on prépare notre éternité. Vous savez, dans Apocalypse, il y a plusieurs versets qui nous disent qu'on est des sacrificateurs. Par exemple, dans Apocalypse 1:6, Dieu a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous sommes des sacrificateurs. Donc, notre sacerdoce commence ici, sur terre, dans la vie de tous les jours. Il est actuel. Il est futur, il est prophétique. Il y a encore un autre mot important dans ce verset. C'est qu'il nous a dit, il nous est dit que ce culte il sera raisonnable. Raisonnable, ça veut dire agréable à la raison, suivant la raison, logique. Donc c'est comme si le fait d'offrir nos corps en sacrifice, c'est quelque chose de logique, évident, normal, c'est quelque chose qui coule de source. Offrir mon corps en sacrifice, ça coule de source. Pourquoi ? C'est logique que quand je me sacrifie, c'est évident que c'est une adoration. Mais pourquoi est-ce que c'est logique que je doive me sacrifier? Ça va dans les deux sens. Et la réponse, elle est toujours dans le même verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à cause des compassions de Dieu. Ce mot pour compassion, ça veut dire prendre en pitié. Parce que Dieu a pris pitié. Ça veut dire le cœur de compassion, la miséricorde, l'endroit où réside la compassion, la miséricorde. À cause de ce cœur-là, du cœur de miséricorde du Père, à cause de tout ça, on nous exhorte à nous sacrifier. Parce qu'en fait, il y a un autre petit mot qui est extrêmement important, et ce petit mot, c'est le « donc ». S'il dit « je vous exhorte donc », ça veut dire qu'il y avait quelque chose avant. Il y a 11 chapitres avant, dans l'Épître aux Romains. Et dans ces chapitres, Paul, il expose l'œuvre de Dieu. Et le dernier passage, dans Romains 11, il explique que le salut, que le pardon, que tout ce qu'on a hérité du royaume de Dieu, c'était pour les Juifs, le peuple élu, mais aussi pour les non-Juifs. Et que de ces deux groupes, il n'en a fait qu'un et il en a fait un corps. Mais s'il n'avait pas fait ça, on serait mal barré, mes amis. Et en fait, il explique tout ça. Il explique l'œuvre magistrale que Jésus a faite. Donc, c'est tellement grand. C'est tellement énorme. C'est tellement énorme ce que Dieu a fait que c'est complètement logique. C'est les compassions de Dieu. Les compassions, mais c'est... C'est tellement grand, le sacrifice du Père d'avoir donné son Fils, on n'imagine même pas ce que c'est. Et en fait, ce matin encore, je dormais encore et le Saint-Esprit m'a réveillée en me disant une petite subtilité à laquelle je n'avais pas pensé. Je me réveille avec ça, il me dit, mais tu sais, tout ce qu'on sacrifie à Satan, le culte des idoles, etc., parce que malheureusement, Satan est un copieur déformateur, et il y a plein de cultes à Satan, les cultes des idoles. Eh bien, tout ça, c'est de la prostitution. C'est de la prostitution parce que les gens qui font ça, c'est pour obtenir quelque chose. Tandis que nous, quand on se sacrifie à Dieu, c'est un acte de reconnaissance. C'est de l'adoration volontaire parce qu'on dit merci pour ce qu'on a déjà reçu. On ne se sacrifie pas pour obtenir quelque chose. Mais on se sacrifie parce qu'on a déjà tout reçu. On a reçu la guérison. On a reçu la restauration. On a reçu l'espérance de la vie éternelle. On a reçu le pardon de nos péchés, la restauration dans les familles, la réconciliation, la guérison du corps, de l'âme. On a tellement reçu, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Alors tout ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est pour lui dire merci. Le prix que Jésus a payé, c'était exorbitant, c'était énorme, c'était hors norme. Le Père qui a donné son seul fils, qui était saint, qui était pur, qui n'avait pas une once de péché en lui, il l'a donné et Jésus l'a accepté de devenir malédiction, de devenir souillure, de devenir débauche, de devenir malade, de devenir toutes ces choses-là d'aigle. Il a accepté de devenir ces choses-là, d'être séparé de son Père, et en plus de ça, de mourir sur la croix. Mais la torture qu'il a vécue, personne sur terre ne l'a vécue. Toutes les personnes qui ont été tailladées dans tous les sens n'ont pas vécu cette torture de devenir le péché de l'humanité. C'est hors norme ce que Jésus a fait pour nous. C'est tellement hors norme. Est-ce que ce n'est pas logique en retour de lui offrir notre corps ? Et de faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, etc. Enfin, je ne vais pas continuer la liste de tout ce qu'on pourrait, de toutes les mauvaises choses qu'on fait, mais est-ce que nous allons servir et nous nourrir du monde des ténèbres ou est-ce qu'on décide de se positionner et de servir le monde de la lumière, le royaume de Dieu? Paul, il n'y va pas par quatre chemins. Hein. Dans Romains 6, 16, il nous dit... Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On a le choix, hein? Et dans Romains 6, 19, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant que vous avez pris conscience, que vous avez compris, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Je crois que si on est conscient de ce que Jésus a fait pour nous, ça devient un désir d'être un sacrifice vivant. On a envie de traiter ces faiblesses qu'on a en nous. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive du premier coup. Moi, je sais. Moi, j'essaye de sacrifier mes pensées, mais ouh, il y a encore du boulot. C'est difficile. J'essaye de sacrifier ma bouche et chaque fois qu'il y a une parole qui est sortie puis qu'il ne fallait pas, je me dis, bah, tu t'es encore planté. Mais c'est un travail, c'est un entraînement, c'est du fitness spirituel. Et quelque chose qui est très difficile aussi, c'est de comprendre ce que Jésus a fait, de vraiment d'en avoir conscience, mais au plus profond de nous-mêmes. Et c'est une prière qu'on peut faire au Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi la révélation de l'amour de Jésus. Donne-moi la révélation de l'œuvre de la croix. Que je le comprenne pas juste avec ma tête, je le sais, mais que je le comprenne tellement au plus profond de moi que de toute façon, la reconnaissance et la sanctification, c'est une réponse automatique, c'est normal. Ça, c'est des choses qu'on peut demander au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour créer cette chose qui fasse qu'on comprenne et puis que ça nous transforme. Alors, pour terminer, j'ai une toute petite conclusion. N'ayez pas peur. Quand j'avais encore toutes ces pensées dans tous les sens dans ma tête pour essayer de structurer un peu, il y a une phrase qui est revenue, une phrase que je me suis posée souvent, que j'avais écrite dans un petit coin de mon ordi pour ne pas l'oublier, mais je n'ai jamais eu trop envie d'y répondre, parce que je sais où sont mes faiblesses. Cette question, c'était, jusqu'où suis-je d'accord d'aller dans le sacrifice? Alors pour conclure pour de vrai, dans Galates 2,20, je vous lis deux versets. Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ. C'est vrai, hein? Spirituellement, quand Jésus a été crucifié, dans le cœur du Père, sa pensée, c'est que nous avons aussi été crucifiés avec lui. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, je vis surtout dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il m'a donné son porte-monnaie. Ne livrez pas, Romains 6,13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Seigneur Jésus, c'est tellement grand ce que tu as fait pour nous. C'est tellement énorme. C'est difficile de le saisir. C'est difficile de le comprendre au plus profond de notre être. Mais je te demande, par l'aide de ton Saint-Esprit, de nous donner un esprit de révélation qui te fasse connaître, qui fasse connaître cette œuvre que tu as faite pour qu'on puisse l'intégrer dans le plus profond de notre existence. Que ça puisse nous transformer, que ça puisse réveiller la passion pour toi, le feu pour toi, que l'on soit bouillant pour toi, Seigneur. Je te demande encore de purifier toutes ces paroles qui sont sorties de ma bouche, et ce que je te demande, c'est qu'il n'y ait aucun esprit de condamnation, de culpabilité ou de doctrine, de fausse doctrine ou de « tu dois pas ». Je te demande de mettre, Seigneur, ta vérité dans tout ce qui a été dit, de mettre ton cœur, de mettre tes intentions, et de réveiller notre passion pour toi et de nous encourager pour nous montrer combien on sera béni, combien on sera épanoui quand on pourra vivre comme toi tu as toujours voulu qu'on vive. Qu'on soit des instruments utiles et utilisables entre tes mains, Seigneur. Qu'on soit influents là où tu nous as placés, tellement remplis de ta présence, tellement remplis de ta personne. Et que ça nous permette d'apporter la guérison là où on se trouve. Que ça nous permette d'apporter la libération, la délivrance. Qu'on soit des instruments, Seigneur. Que même sans rien dire, sans rien faire quoi que ce soit, que ce soit ta présence qui soit distribuée et qui touche les cœurs. Seigneur, je te loue, je te bénis, je bénis ton nom, je bénis la puissance de ta parole. Et je te remercie pour tous les serviteurs de Dieu que tu nous as donnés et qui ont consigné toute ta parole dans la Bible pour nous instruire. Merci parce que c'est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Merci Seigneur et garde nos cœurs proches de ton cœur. Garde nos pensées soumises à tes pensées et glorifie-toi encore. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.